France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir, l'arrestation à Londres du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, ou la trajectoire en clair-obscur de ce lanceur d'alerte à la une des informés. Nous donnerons également une large place à notre enquête Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Les Français majoritairement déçus, et oui, par la restitution du grand débat national et sceptiques quant aux baisses d'impôts annoncées. Les Britanniques voteront aux Européennes, conséquence du nouveau report du Brexit. Pantalonesque pour François Bayrou, c'est un petit peu le mot du jour. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Geneviève Götzinger.
Bonsoir.
Présidente de l'agence Image avec 2G, je précise. Conseil en stratégie et communication. Vous avez été journaliste politique et notamment ancienne dirigeante de RFI. Avec nous également, bonsoir Virginie Pradel.
Bonsoir.
Bienvenue, présidente de l'Institut de recherche fiscale et économique Vauban. Avec nous, partenaire des informés, bonsoir Henri Vernet.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France. Et bonsoir, autre partenaire, Pascal Richer.
Bonsoir.
Bienvenue, directeur adjoint de la rédaction de l'Obs et cofondateur de Rue 89, nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la TV sur le canal 27 de la TNT. Il est apparu diminué, presque méconnaissable avec ses cheveux et sa barbe de couleur blanche. Julian Assange a été arrêté par Scotland Yard dans les murs de l'ambassade équatorienne à Londres où il s'était réfugié il y a 7 ans déjà. La justice britannique l'a reconnu coupable d'avoir violé les conditions de sa liberté conditionnelle en 2012 alors que la Suède réclamait à cette époque son extradition dans le cadre d'une affaire de viol qui a été close depuis. Les États-Unis ont inculpé le lanceur d'alerte de piratage informatique et de complot et réclame à leur tour son extradition. Voilà pour le cadre de cette affaire. Pour la première ministre britannique Theresa May qui s'exprimait devant la Chambre des communes au sujet du Brexit, eh bien, personne n'est au-dessus des lois.
J'aimerais remercier la Metropolitan Police d'avoir accompli sa mission avec un grand professionnalisme et saluer la coopération du gouvernement équatorien pour la résolution de ce problème. Monsieur le Président, cela montre qu'au Royaume-Uni, personne n'est au-dessus des lois.
Voilà donc pour la déclaration de la Première ministre britannique, Geneviève Götzinger, pour essayer de comprendre ce qui se produit, ce qui se passe. D'abord, quelques mots sur la personnalité de Julian Assange, 47 ans, nationalité australienne. Qui est-il ? C'est un héros moderne ou...
C'est une forme de héros moderne, absolument. C'est un symbole. Avant tout, hein, c'est le symbole de la transparence totale, en tout cas de la volonté de transparence totale. C'est le symbole du droit à l'information absolue, contre les États, le cas échéant, l'accès à toutes les informations classifiées. Mais c'est aussi le côté plus trouble du personnage, ses liens avec la Russie. Sa démolition très claire de la campagne d'Hillary Clinton au profit de Donald Trump, qui d'ailleurs était très favorable à Wikileaks à un moment après son élection. Cette histoire de viol, pas vraiment élucidée. Donc en fait, sa personnalité est plus complexe que le
double
héros.
Personnalité, vous diriez, oui.
Que celle
oui.
du héros des temps modernes.
Alors on va entendre justement, puisque vous l'évoquez à l'instant, avant de continuer le tour de table, ce que disait Donald Trump. C'était à l'époque de la campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis. Il se trouve que Wikileaks avait publié les emails piratés de la candidate Hillary Clinton. On écoute le candidat Trump.
Now, this just came out. This just came out. Wikileaks, I love Wikileaks.
Henri Vernet, c'est dans toutes les mémoires cet épisode. Effectivement, est-ce que cela donne une image peut-être plus trouble de la personnalité de Julian Assange ?
Non, ou alors le contraire. C'est-à-dire qu'un bon lanceur d'alerte, il doit lancer l'alerte, il doit porter le fer dans toutes les plaies, comme le disait notre maître à tous, Albert Londres. C'est-à-dire que le journaliste, il n'est pas là pour faire plaisir ou pour servir une cause quelconque, il est là pour dénoncer des scandales et des malversations et tout ce qui est caché. Donc en cela, non, ça c'est pas du tout le côté trouble. Puisque d'un côté, en effet, il desservira en l'occurrence la campagne de Clinton, de Hillary Clinton, mais quelques temps plus tard, un an plus tard, le même Trump va se retourner contre lui pour la mise en lumière des liens troubles entre la campagne Trump et donc Poutine et donc les services russes. Donc bon, là, il a tapé de chaque côté. Ça, c'est plutôt le côté qu'il faut protéger, c'est-à-dire un lanceur d'alerte. Quel qu'il soit, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit la manière dont il donne l'alerte, il faut réellement qu'on puisse protéger les sources, qu'on puisse favoriser cette pratique-là. Non, le côté trouble, c'est davantage, en effet, cette affaire de viol, je crois que pour laquelle une plainte a été relancée. Ce sont peut-être les dissensions qu'il a pu avoir dans son propre mouvement, la façon dont il menait un petit peu WikiLeaks. C'est vraiment le côté relever d'enquête pénale. Ça, il y a pas, sur ce volet-là, il n'y a pas de raison, en effet, qu'il soit au-dessus des lois. Mais pour le reste, oui. Par ailleurs, c'est un peu gênant que quand on demande asile et qu'on obtienne l'asile, on soit dépendant d'un changement de gouvernement. Ça, c'est quand même problématique.
Virginie Pradel, sur la personnalité, de Julian Assange, il y a d'abord cette image étonnante d'un homme vieilli, après tout, diminué, avec cette barbe. Ça vous a surpris vous-même, d'ailleurs?
Oui, mais alors après, je trouvais que la fin, ce à quoi on assiste aujourd'hui était prévu d'avance. C'est juste, on se demande pourquoi ça a mis autant de temps, dès lors que ça fait quand même des années. Après, sur la personnalité, il a une personnalité ambiguë, mais pour moi, j'ai quand même une image très positive de lui, sachant que il a quand même remédié à l'asymétrie entre l'État et les citoyens en lançant une initiative que je trouve assez salutaire. Bon, alors bien sûr, tout n'est pas bien, mais je pense que c'est quand même un modèle pour de nombreux journalistes et pour de nombreux lanceurs d'alerte. Donc,
vous partagez ce point de vue, Pascal Richet?
Oui, moi j'ai plutôt tendance à le défendre aujourd'hui. Bon, sur l'affaire de viol, le cas a été fermé, donc la justice a considéré qu'il
pouvait se
rouvrir.
Vous avez vu qu'il y a eu.
C'est relancé.
Pour l'instant, ça a été fermé et il est présumé innocent, donc pour l'instant, c'est très difficile d'avoir un jugement sur cette affaire. En plus, l'affaire est arrivée au moment où effectivement les Américains essayaient de le coincer, donc tout ça est un peu suspect. Mais ce qui se passe aujourd'hui est quand même assez choquant. Effectivement, il y a un pays qui accorde l'asile et puis il y a un changement de président. Le nouveau président est un peu plus proche des Américains, donc décide d'arrêter. On le livre au service britannique, à Scotland Yard. Il se fait extraire de l'ambassade. Et puis tout est cousu de fil blanc. On sent bien, il y a eu des déclarations britanniques qui disent « on ne va pas l'extrader vers un pays où il risquerait la peine de mort ». Ils n'ont pas dit « dans un pays où il y a la peine de mort ». Donc ils n'ont pas dit « on ne va pas l'extrader aux États-Unis ». Et puis aux États-Unis, Chelsea Manning, qui était la personne qui avait travaillé avec Assange pour révéler des crimes de guerre en Afghanistan et en Irak, a été arrêté, ce qui a été d'ailleurs très peu médiatisé, il y a très très peu de temps.
Et incarcéré pour trahison.
Donc il y a quand même, en termes de liberté de la presse, il se passe quand même un truc assez grave. La gauche américaine ne dit plus rien pour le défendre parce que il a révélé les emails d'Hillary Clinton, ce que n'importe quel journal aurait fait s'ils avaient eu ces informations. Et d'ailleurs, il y a une espèce d'hypocrisie dans toute cette affaire. C'est que les médias qui aujourd'hui se taisent ou disent « Ah oui, Julian Assange, il est un peu bizarre, il est un peu louche », ils ont tous repris ces informations. Donc, ce qui se passe est assez grave et assez dangereux, je pense, pour la liberté de la presse.
Allez, nous restons sur le sort qui est réservé à Julian Assange sur France Info. Aux informés, 20h10, le rappel de l'info tout d'abord avec vous, Jules Dequis.
EDF pensait pouvoir les éviter, mais ils risquent de devoir faire de nouveaux travaux sur l'EPR de Flamanville. Un groupe d'experts recommande de réparer des soudures défectueuses dans cette énorme centrale. L'autorité de sécurité nucléaire pourrait suivre ces préconisations et cela alourdirait encore la facture, créerait certainement un nouveau retard. L'ouverture est prévue au plus tôt pour le début de l'année prochaine. Pour la troisième fois de suite, la justice française donne raison à un agriculteur contre Monsanto. La Cour de cassation estime que si Paul François est tombé malade, c'est bien à cause d'un désherbant du groupe agrochimique. L'agriculteur avait déjà gagné en première instance et en appel. Interdiction de manifester ce samedi sur les Champs-Élysées, près de l'Assemblée nationale et du Palais présidentiel. Décision de la préfecture de police de Paris avant une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes. Cela fait 3 semaines maintenant que les cortèges sont interdits dans ces secteurs. Après 7 ans passés dans l'ambassade équatorienne à Londres, Julian Assange en a donc été extirpé par la police britannique. L'Équateur vient de mettre fin à son asile politique. Décision immédiate de la justice à Londres. Elle l'incube et le place en détention. Elle va examiner dans les prochaines semaines la demande d'extradition américaine. Aux États-Unis, le fondateur de WikiLeaks risque 5 ans de prison. Il est à l'origine de la publication de milliers de documents classés secret défense. Et puis 900 millions d'électeurs appelés aux urnes, un scrutin sur 6 semaines. Les Indiens choisissent leurs députés. Les élections législatives commencent aujourd'hui. Ce sont les plus grandes du monde.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous l'évoquions à l'instant, il n'y aura pas eu d'arrestation sans la décision de Lénine Moreno. Julian Assange a été lâché donc par le président de l'Équateur qui lui a reproché une attitude irrespectueuse et agressive. Pour tenter de comprendre ses arguments, Lénine Moreno, il s'en est expliqué depuis la capitale Quito.
Je vous annonce aujourd'hui que le comportement discourtois et agressif de M. Julian Assange, que les déclarations hostiles et menaçantes des organisations qui lui sont fidèles contre l'Équateur et les transgressions des traités internationaux ont conduit la situation à un point où l'asile de M. Assange n'est plus tenable et plus du tout d'actualité.
Geneviève Götzinger, on a ce spectacle mondial finalement autour de l'affaire Assange, un président qui s'explique depuis les Amériques au fond pour essayer de se justifier avec aussitôt une sorte de domino qui tombe les uns derrière les autres. Est-ce que, à la vérité, l'Équateur n'a pas voulu faire plaisir aux États-Unis ?
Alors l'Équateur a voulu faire plaisir aux États-Unis et la Grande-Bretagne aussi veut sans doute faire plaisir aux États-Unis. L'Équateur, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ce pays a obtenu récemment, il y a quelques semaines, un prêt très important du FMI et de la Banque mondiale à un taux extrêmement intéressant. Donc est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a eu un deal entre les États-Unis qui ont soutenu ce prêt et le président équatorien ou pas? Est-ce que Theresa May aussi veut faire plaisir aux États-Unis en allant sortir Julian Assange de cette ambassade? On peut se poser raisonnablement la question. Ce qu'il faut se dire, c'est quand même que depuis 7 ans, depuis qu'il est réfugié dans cette ambassade, il subit une pression très très forte autour de lui. Il n'a pas pu en sortir. Il a vécu pendant 7 années dans des conditions absolument épouvantables où il était enfermé dans une petite pièce sans jamais voir la lumière du jour, du soleil. Ce qui explique d'ailleurs ce visage absolument terrible, ce teint blafard, ce vieillissement, cette image de vieillissement qu'il a donné lorsqu'il a été interpellé.
Henri Vernet, c'est une victoire de Trump?
Oui, on peut le dire comme ça, parce que bon, en tout cas, c'est ce qu'il demandait. Il obtient ce qu'il a demandé. Donc, dans ce sens-là, c'est une victoire. Pourquoi est-ce que Theresa May lui rendrait ce service? Oui, c'est pas impossible. En tout cas, c'est vrai que là encore, ça donne cette image-là. Bah, c'est vrai que au moment où la Grande-Bretagne est en train de faire le choix du grand large, hein, c'est-à-dire de larguer, enfin, même si c'est ça prend du temps, mais enfin, de larguer les amarres avec l'Europe et de renouer donc avec son atavisme, avec ses gènes, en quelque sorte, d'être davantage tourné vers les États-Unis et vers le vaste monde. Oui, ça prend un certain sens. Mais cette histoire, ce que ça montre surtout, c'est que décidément, dans une période où globalement, mais même chez nous, je veux dire, même dans notre démocratie occidentale, même en France, la liberté de la presse, elle n'est pas flambarde, elle se porte pas bien parce qu'on est trop concentré, parce qu'on a de moins en moins de moyens, parce que finalement, aujourd'hui, la presse, qu'est-ce qu'on en attend? Je voyais, j'étais frappé dans un récent sondage de montrer que ce qu'attendent en premier les acteurs, électeurs et citoyens de la presse, en quelque sorte, c'est de leur décrypter l'information. C'est de rétablir la vérité entre les fake news et le reste. Normalement, notre métier, ce serait en premier de donner des informations, de les révéler. Non, finalement, aujourd'hui, il y a tellement de sources, le doute est tellement généralisé qu'on est là-dedans. Et c'est vrai que la liberté, c'est pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Cette histoire, elle montre qu'il faudrait réellement protéger, encore une fois, les lanceurs d'alerte et de manière internationale. Là, voilà, il y a un président qui passe, un autre qui s'aligne sur les États-Unis parce que quelque part, c'est la main qui le nourrit. Et ça s'arrête là. Il faut être aussi pragmatique que cela. Oui. Eh bien, voilà, on vend à Assange pour un plat de lentilles et demain, ce sera un autre. Hein.
Virginie Pradel, sur ce que dit à l'instant Henri Vernet, il faut rappeler quand même que le principe de Wikileaks, hein, c'est une ONG qui a été fondée en 2006, qui publie des documents, évidemment, forcément, souvent très confidentiels et qui révèlent des scandales de violations de droits de l'homme, d'espionnage et également de corruption. Alors vous qui êtes à l'Institut Vauban, finalement, tout ce qui peut relever de trafic international et de trafic financier peut-être révélé à travers les lanceurs d'alerte.
Ah oui, moi je suis totalement pour et de toute manière j'ai toujours été frappée par l'opacité qui règne. Alors dans mon domaine, je dirais que c'est l'opacité fiscale et je ne serais pas contre que parfois on mette en évidence certaines pratiques douteuses de l'administration, hein, parce que c'est vrai qu'il y a une omerta autour de ça. Non, moi je trouve que l'initiative est salutaire et qu'il faudrait même l'étendre à d'autres domaines. Et oui, toutes les informations ont vocation... Alors bien sûr, c'est pas les États-Unis qui vont corroborer ce que je dis, hein, mais de toute façon, on voit bien que ce qui a été dénoncé n'était pas très flatteur pour l'État américain.
Hein. Pascal Richer, parmi les réactions, il y a celle de Moscou, hein, qui estime que la main de la démocratie, entre guillemets, hein, étrangle la liberté, et espère que ses droits, les droits de Julian Assange, seront respectés. Pourquoi ce soutien russe?
Bon, parce que Julian Assange est considéré comme un ennemi par les États-Unis et que la Russie, dans le jeu actuel, effectivement, se sent solidaire de tous les ennemis des États-Unis.
Chacun se positionne. Voilà. Hein,
c'est vrai qu'il y a eu un lien entre Moscou et Julian Assange, puisqu'il a visiblement il a fait fuiter ses emails qui ont été fournis par un hacker russe. Donc il y a eu quelque chose. Après, la source, c'est pas parce qu'on a une source russe qu'on devient pro-soviétique. Bon, lui-même, il a été enfermé pendant 7 ans. Qu'il soit devenu un petit peu parano, mégalo, etc., ce qu'on lui reproche, on peut pas l'en blâmer. 7 ans enfermé comme ça avec la CIA qui en gros vous promet la peine de mort, parce que c'était ça. Même Donald Trump en 2010 a considéré qu'il
risque 5 ans de prison aux États-Unis.
Oui, quel est son crime? C'est juste d'avoir eu l'audace de diffuser des documents de l'armée américaine, enfin des opérations militaires américaines. Donc il a fait un travail de média. Vous dites lanceur d'alerte, c'est pas un lanceur d'alerte, c'est un éditeur de presse. Il a une maison d'édition de presse qui s'appelle WikiLeaks, et il a publié des documents ultra confidentiels sur les services secrets américains et sur l'armée américaine.
C'est l'affaire Bradley Manning, devenu Chelsea. Donc Manning qui était en fait une analyste des services de la NSA, qui finalement a révélé, il lui a prêté main forte pour révéler certaines choses qui étaient préjudiciables au regard de l'armée américaine.
Ça, c'est le grand crime, c'est le crime absolu. Après, il a révélé des tas de choses avec WikiLeaks, sur Ben Ali, y compris sur certaines personnalités françaises. Enfin, il y a eu énormément de révélations sur WikiLeaks depuis une dizaine d'années.
Oui. Henri Vernet.
Ce qui est notable aussi quand même aujourd'hui, sauf erreur, c'est le silence de la France, des autorités françaises. Il faut quand même se souvenir qu'à un temps, il avait envisagé qu'il y ait un asile en France de Assange. Ça s'était négocié entre ses avocats et François Hollande. Alors, c'est pas allé très loin. À l'époque, François Hollande était dans une position assez... il voulait être un petit peu un champion en la matière. Bon, ça n'a pas duré. Il est vite revenu en réalité en ce domaine comme en bien d'autres. Mais enfin, aujourd'hui, il n'en est même plus question. Et je trouve que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, notre système de médias n'est malheureusement pas exemplaire, loin de là, en matière de liberté de la presse. Et finalement, que les autorités françaises ne soient pas les premières à aller soutenir ou, pourquoi pas, à proposer une solution alternative à un Assange, c'est significatif, quoi. C'est dans l'air du temps. Voilà. Oui, tout ça devient secondaire, finalement. C'est un peu embêtant.
Quoi. Je précise que l'avocat de Julian Assange, Juan Branco, a appelé le président Emmanuel Macron à intervenir, à prendre position dans cette affaire WikiLeaks en faveur donc de Julian Assange, qui, je vous le rappelle, est aujourd'hui susceptible d'être extradé aux États-Unis. Allez, 20h20 sur France Info. On va évoquer dans un instant notre enquête Odoxa Dentsu Consulting, mais tout d'abord le rappel de l'info avec vous, Jules Dequisse.
La France votera contre l'ouverture de négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis, annonce ce soir l'Élysée. Le vote doit avoir lieu lundi à Bruxelles. La France pourrait être la seule à défendre cette position. L'Élysée rappelle le refus d'Emmanuel Macron de tout accord commercial avec un pays qui n'a pas signé l'accord de Paris sur le climat. L'opposition soudanaise dénonce un coup d'état militaire. Elle ne se réjouit donc pas du départ d'Omar el-Béchir alors qu'elle le demandait depuis des semaines. Le président au pouvoir depuis 30 ans est destitué par l'armée. Elle impose un cessez-le-feu, un couvre-feu nocturne et ferme les frontières et l'espace aérien du pays. Les chiffres ont été donnés tout à l'heure par le Premier ministre Édouard Philippe. En un peu plus d'un an, 4 écoles musulmanes hors contrat, 7 lieux de culte et 89 petits commerces ont été fermés dans le cadre de la lutte contre l'islamisme radical. Le coup d'éclat de Greenpeace à l'Assemblée générale des actionnaires du groupe Nestlé en Suisse aujourd'hui. L'ONG a pris la parole pour appeler le géant de l'alimentation à réduire ses emballages plastiques. L'an dernier, Nestlé en a produit près de 2 millions de tonnes, c'est 13% de plus que l'année précédente. Et puis les quarts de finale aller de la Ligue Europa de football ce soir, sans club français. Arsenal reçoit Naples, Chelsea se déplace à Prague, duel espagnol entre Villarreal et Valence, et le Benfica Lisbonne affronte Francfort.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, on en vient à notre enquête Odoxa, Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. La restitution du grand débat national a déçu les Français, êtes-vous surpris? Ils ne croient pas, les Français en question, nous donc, aux promesses de baisse d'impôts, selon ce sondage réalisé hier et aujourd'hui par Internet auprès d'un millier de personnes. Après donc le discours d'Édouard Philippe lundi au Grand Palais, les explications de Céline Brac, cofondatrice et directrice générale d'Odoxa.
Là, on mesure une restitution, première étape, avant les propositions. Et il fallait pouvoir avoir cette base. Malheureusement, le Premier ministre reçoit une mauvaise note de la part des Français, puisqu'on a 69% des Français qui se déclarent insatisfaits de la restitution qui a été faite du grand débat. Alors c'est complètement unanime, hein, quelles que soient les catégories de Français.
Geneviève Götzinger, vous n'êtes pas surprise quand même, non? 7 Français sur 10,
absolument
déçus.
Pas. Mais absolument ouais. Pas, c'est un exercice qui est forcément inachevé, puisque c'est un exercice de restitution, mais sans annonce. Que veulent les Français? Qu'est-ce qu'attendent les Français? Ils attendent les annonces.
Oui, parce qu'en fait,
ce qui va sortir de ce grand débat.
Donc forcément, un discours comme celui de lundi, bon, c'est sympathique, mais...
Mais on reste sur sa fin. Il manque l'essentiel, en fait. Il manque les réponses.
Pascal Richer, là-dessus, vous n'êtes pas surpris non plus. Enfin, forcément, c'était couru d'avance.
Oui, de toute façon, tant que Emmanuel Macron ne parlera pas, et c'est quand même incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait vraiment, vraiment pas ce qu'il va dire.
C'est pour quand, d'ailleurs, vous pensez?
Mardi soir, mercredi soir.
Oui.
Bon, ils avaient dit vers mi-avril, donc voilà, on y arrive. Mais tant qu'il n'a pas parlé, et alors ils annoncent, enfin, dans son entourage, etc., on annonce quelque chose de grand, quoi. On annonce quelque chose de puissant, puisque c'est un mot qui a été utilisé, je crois, par Édouard Philippe. Donc, on va voir. Mais alors, les Français ne croient pas. Là, le sondage, votre sondage, il dit en gros, on ne croit pas au Père Noël, puisque c'est vrai que depuis un an et demi, deux ans, c'était plutôt des hausses d'impôts et des économies budgétaires qui étaient à l'ordre du jour. Donc, on leur a dit qu'il faut faire des économies, qu'il faut serrer la ceinture. Et puis, d'un coup, on dit, oh, voilà, on va baisser les impôts. Avec quel argent? Comment on va trouver l'argent? Les Français n'y croient pas, c'est bien normal.
Alors, Virginie Pradel, c'est vous l'experte hein, ce soir. Alors, le sondage nous dit également, l'opinion publique, généralement, ne croit pas à la promesse de baisse d'impôts. Peut-être le désir, mais n'y croit pas, en tous les cas. Parce que pour 62%, eh bien, le problème n'est pas le montant des impôts, mais leur répartition. Ça, c'est un premier fait. Autre enseignement en ce qui concerne ces histoires d'impôts. Alors, il concerne les bonnes décisions à prendre pour baisser les impôts, sachant que les différentes catégories de la population n'ont pas du tout les mêmes attentes. Les plus modestes, Virginie Pradel, plébiscitent la baisse de la TVA et les plus aisés, la baisse de l'impôt sur le revenu. Pourquoi ce scepticisme des Français vis-à-vis de cette annonce spectaculaire de baisse d'impôt?
C'est totalement justifié dès lors que le gouvernement n'a cessé de faire des promesses fiscales depuis environ 2 ans, des promesses qui ne sont pas tenues. Et d'ailleurs, il a bien raison de continuer, hein, parce que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent hein, et qui y croient encore.
Est-ce qu'il baisse les impôts?
Non, il ne baisse pas les impôts. En fait, il dit qu'il baisse les impôts. En fait, on est dans le pur effet d'annonce. Alors, il y a plusieurs exemples.
Pour les riches, il a baissé les impôts.
Oui.
Pascal Richer. Oui.
Pour les riches, il a baissé les impôts.
ISF. Je suis d'accord. Mais alors, si après, on prend tout le reste, la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% dits les plus aisés. Je manque de m'étouffer parce que quand les 20% les plus aisés, c'est les célibataires qui gagnent 2 200 € par mois. Donc, toute proportion gardée. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, dernièrement, on a eu les annonces tonitruantes hein, d'Emmanuel Macron hein, qui avait été salué. Alors, on a eu le retour de la défiscalisation et de la désocialisation des heures supplémentaires. Mais malheureusement, quelques jours plus tard, qu'est-ce qui a été adopté par le Parlement? C'est des heures qui sont encore fiscalisées car soumises à la CSG-CRDS et aussi aux cotisations patronales. Ouais. Idem pour les retraités, hein, on a dit gros coup d'annonce, les retraités, on va revenir sur la hausse de la CSG de 26% dès le début 2019. Quelques jours plus tard, le gouvernement est venu en annonçant qu'il y avait un énorme problème technique, en fait, pour baisser rapidement la CSG. Oui, alors, bizarrement, il y a toujours des problèmes techniques pour baisser les impôts, mais jamais pour les augmenter. Donc là, en raison d'un problème technique, ça a été repoussé à une date presque indéterminée. Hein. D'ailleurs, on espère que ça va être adopté un jour ou l'autre. Idem, la hausse de 100 € du SMIC, là, en fait, c'était une prime d'activité. Donc forcément,
vous nous dites
qu'en
réalité, il y a des annonces, tout et son contraire, quoi.
Alors déjà, il y a des annonces qui sont contredites le lendemain. Alors déjà, et en plus, quand il y a des annonces, faut faire attention aux annonces. Lundi ou mardi, faut faire attention aux annonces, parce qu'on ne sait pas ce qui sera adopté par le Parlement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Emmanuel Macron, bien sûr, fait preuve de bonne volonté. Il a compris qu'il fallait baisser les impôts, mais malheureusement, l'administration ne suit pas derrière.
Henri Vernet, d'où ce scepticisme, finalement, qui n'est pas une surprise, c'est ce que traduit l'enquête.
C'est-à-dire, attendez, moi, la surprise sera le jour où un sondage dira que les Français sont contents, satisfaits, etc. Enfin, je veux dire, vous et moi, on sait bien, on est suffisamment habitués aux commentaires des sondages pour savoir cela. De toute façon, l'attente, bon, par nature, elle est importante. Et là, plus encore, évidemment, après un mouvement aussi important, aussi profond et qui a duré si longtemps.
Qui dure encore, exactement.
Et c'est justement...
Ça fait cinq mois que ça dure. C'est quand même un mouvement assez inhabituel.
Là, si la mobilisation des samedis a certes baissé, il faut se mettre... D'ailleurs, quand vous dites quand est-ce qu'il parlera, bon, nous, dans Le Parisien, ce matin, on a a plutôt eu des échos selon lesquels
c'est
ce serait lundi.
C'est vous qui avez dit, même ouais, dimanche soir.
Alors dimanche soir, et plus vraisemblablement lundi.
Plus vraisemblablement.
Pour avoir un, comment dire, pour laisser s'achever cette semaine-là où on a beaucoup vu le Premier ministre, ce qui d'ailleurs n'est pas, enfin on dit long et significatif, ça veut dire que Édouard Philippe endosse tout ce qui va être fait. C'est aussi une façon de démentir les rumeurs selon lesquelles il y aurait des dissensions entre Matignon et l'Élysée. Donc lundi pour lancer une semaine en quelque sorte d'annonce et d'action. Si sur la fiscalité, il ne peut pas être dans la demi-mesure, il faudra qu'il y ait des baisses importantes. Ça peut toucher. Alors, mais par exemple, on revient tout de suite.
Vous savez quoi, on va marquer une pause, on va prendre le temps
d'accord,
dans la deuxième partie des informés pour, au fond, dégorger notre enquête et puis effectivement essayer de comprendre ce qui peut être annoncé donc en début de semaine prochaine. On marque une pause, la météo, le rappel de l'info, et on se retrouve dans un tout petit instant.
Lundi à partir de 20h sur France Inter, le groupe rock The National en concert. Un mois avant sa sortie, le quintet américain vient vous présenter sur scène et en avant-première les titres de son prochain album. Un événement en direct du Café de la Danse à Paris à vivre lundi soir sur France Inter à partir de 20h.
France Inter, une radio de Radio France.
Politique, culture, international, sport, économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, deux points, ouvrez l'info. France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
La journée de demain sera encore émaillée d'averses, localement orageuses en Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec une limite pluie-neige vers 1500-1600 mètres d'altitude. Les premiers orages éclateront sur la Corse avant la mi-journée et seront plus nombreux l'après-midi. Partout ailleurs, le temps sera plus calme. Entre Midi-Pyrénées et le Sud-Aquitaine, de l'humidité résiduelle retardera l'arrivée des éclaircies, mais les périodes ensoleillées seront plus belles l'après-midi. Sur le reste du pays, la matinée sera bien ensoleillée. Le soleil dominera encore l'après-midi. Entre les Hauts-de-France et la Lorraine, le ciel va progressivement s'ennuager, mais on profitera encore de larges éclaircies. Côté température, les minimales seront en baisse avec des gelées plus nombreuses sur une large moitié nord. Demain après-midi, il fera 10 degrés à Lille et Metz, 12 degrés pour Mulhouse et Au Havre, 13 degrés à Paris, 15 degrés à Brest, Nantes et Lyon. On ira jusqu'à 17 degrés à Nice et Toulouse, 18 degrés pour Marseille et Bordeaux et 20 degrés à Montpellier. À noter encore du vent près de la Manche et en Balagne, ainsi que le Mistral et la Tramontane qui continueront de souffler.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Léo Técher.
Bonsoir à tous. Le lanceur d'alerte Julian Assange, arrêté 7 ans après s'être réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres. La police britannique a pu y rentrer sans problème puisque l'Équateur a décidé de retirer l'asile diplomatique aux cybermilitants et fondateurs de Wikileaks. Et dans la foulée, Antoine Gignot, Julian Assange est passé devant le tribunal.
Arrêté, jugé et condamné, le tout en moins de 6 heures. Pour les juges britanniques, aucun doute, Julian Assange est coupable parce qu'il a refusé, en 2012, de répondre à une convocation liée à une affaire d'agression sexuelle en Suède. Il est resté claquemuré à l'intérieur de l'ambassade d'Équateur. Il a donc, aux yeux de la justice, violé les conditions de sa liberté sous caution. Reste à connaître la sentence qui sera annoncée plus tard, mais il risque un an de prison. Le fondateur de Wikileaks va de toute façon rester en détention jusqu'à sa prochaine audience, prévue le 2 mai, audience consacrée à la plainte du gouvernement des États-Unis. Le ministère de la Justice l'accuse d'avoir conspiré contre le gouvernement en aidant Chelsea Manning, un ancien analyste des services de renseignement, à déchiffrer un mot de passe pour prendre le contrôle d'un ordinateur classé secret défense. Londres, Antoine Gignot, France Info.
Ça va devenir une habitude. Donald Trump évoque un possible troisième sommet avec Kim Jong-un, 6 semaines après leur dernière rencontre sans succès. Le président américain qui souhaite toujours dénucléariser la Corée du Nord. L'Union africaine condamne un coup d'état militaire au Soudan. Omar El-Béchir renversé par l'armée ce matin après 30 années au pouvoir. L'UA critique une réponse inappropriée aux aspirations du peuple, aspirations démocratiques selon les Nations Unies qui appellent à une transition calme calme dans le pays. De nouveaux retards à prévoir pour l'EPR de Flamanville. L'autorité de sûreté nucléaire veut obliger EDF à revoir ses soudures sur le réacteur nucléaire de nouvelle génération. Sa mise en service était initialement prévue en 2012. Ces nouveaux travaux devraient également engager de nouveaux surcoûts qui s'élèvent pour le moment à un peu moins de 11 milliards d'euros. Jean-Marie Le Pen condamné à 1500 euros d'amende pour détention d'armes non déclarées, un flashball, un fusil à pompe et deux pistolets retrouvés par des pompiers intervenus pour un incendie à son domicile. Le cofondateur du Front National n'a pas fait le déplacement aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Du foot ce soir avec les quarts de finale aller de la Ligue Europa et notamment l'affiche Arsenal-Naples dans une petite demi-heure à 21h. Et le retour des experts à la même heure, premier match de l'équipe de France de handball depuis sa médaille de bronze au championnat du monde il y a 2 mois. Les Bleus qui peuvent déjà se qualifier pour l'Euro 2020. Ils affrontent donc le Portugal ce soir à Guimarães, puis dimanche à Strasbourg. 20h33, la suite des informés sur France Info avec Jean-François Aquili et ses invités.
France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image avec 2G, conseil en stratégie de communication avec Virginie Pradel, présidente de l'Institut de recherche fiscale et économique Vauban. On a bien besoin de votre regard sur la fiscalité. Avec Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, et avec Pascal Richer, directeur adjoint de la rédaction de l'Obs et cofondateur de Rue 89. Alors Emmanuel Macron va s'exprimer en début de semaine. Est-ce que c'est lundi? Est-ce que c'est mardi? Que va-t-il dire? Pour annoncer quoi? Des annonces puissantes et concrètes, a dit Édouard Philippe. Je vous propose d'écouter Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui a parlé sur CNews ce matin de changer le cadre de notre projet national.
Dès lors que la sortie de ce grand débat ne peut pas se résumer à quelques mesures symboliques et qu'il s'agit vraiment de changer le cadre de notre projet national, de toute évidence, ces réponses s'étaleront dans le temps. Le président de la République aura à fixer un cap, aura à fixer une stratégie, sans doute à faire peut-être des annonces plus précises, je ne le sais pas, cela lui appartient, et ensuite les ministres auront à décliner les choses dans le temps.
Geneviève Götzinger, changer le cadre du projet national, ça s'appelle une élection présidentielle, non?
Alors, changer le cadre, mais pas changer de cap, hein? Il change pas de cap. Il est quand même fidèle à sa promesse de campagne. Enfin,
mais le contenu, c'est ce qui se décide pour une campagne présidentielle.
Mais il est en campagne, Emmanuel Macron. Enfin, il est en campagne permanente. Il a été en campagne là pendant quelques semaines, pendant tous ces mois, cette campagne marathon sur le terrain pour reconquérir l'opinion publique. Donc, il est en campagne effectivement, oui, en campagne présidentielle peut-être, en campagne pour sauver son quinquennat.
Oui, Henri Vernet.
En campagne pour arriver encore. Ouais. À faire des choses, à faire passer des réformes.
Vous êtes d'accord avec ce que dit à l'instant Geneviève Götzinger? Après tout, c'est une campagne qui tourne en permanence.
Oui, mais c'était même presque plus que ça, parce qu'on se souvient, bon, il lui a été assez fait le procès de n'avoir été élu que par 22%, enfin 24% des Français qui l'ont vraiment choisi au premier tour en éliminant les autres, et après d'avoir vaincu parce qu'il était face à Marine Le Pen. Bon, d'une part, enfin moi je trouve ça complètement fallacieux, parce qu'on aurait pu dire la même chose de Chirac 12 ans avant, etc.
En 2002.
En 2002. Cela dit, c'est vrai que tout ce débat lui a quand même permis d'aller en effet à la rencontre, de trouver une légitimité peut-être qu'il avait loupé donc pendant la présidentielle, et donc il y avait cette forme de campagne là qui était tout simplement de chercher à convaincre des Français, et dans un premier temps il y a un peu réussi, donc il y avait cette aire de campagne. Maintenant, ce que dit Sibeth Ndiaye, c'est que, alors c'est vrai qu'on change pas de cap, encore que je veux dire, le simple fait déjà les 10 milliards qui ont été accordés en décembre, c'était un changement de cap,
c'est si, un peu ce, un changement de philosophie du quinquennat,
exactement.
Oui.
Et d'ailleurs, pour revenir dans des canons beaucoup plus classiques de la politique française, où on distribue beaucoup, où la dépense publique reste maîtresse, alors il aura quand même besoin, ça, Édouard Philippe lui-même l'a dit, toute frilosité serait impardonnable. Donc on revient à l'esprit presque révolution. C'était le bouquin qu'il avait écrit, mais c'est pas grand-chose de révolutionnaire, mais c'était le bouquin du candidat Macron. Donc il faut revenir là-dedans. Par ailleurs, les ministres le disent, c'est vrai qu'on aura des chantiers longs. Ça, c'est d'autant plus habile que ça veut dire que, attendez, si vous voulez qu'on aille au bout des chantiers,
pressé, il faut mieux attendre.
Voilà, mais surtout, il faudra me réélire en 2022. Donc là-dessus, c'est pas paradoxal. Mais il faudra quand même des grosses annonces, et notamment, moi, on parlait des retraités, mais par exemple, je pense que ils vont revenir sur la rupture, enfin ils vont réindexer alors, les retraites par exemple sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation.
Alors on va parler des retraites dans un instant, mais d'abord sur tout ce qui est fiscal. Virginie Pradel, je reviens à notre enquête Odoxa d'Ansu Consulting pour France Info et Le Figaro. Pour financer une importante baisse d'impôts, les Français privilégient, c'est tout simple, réduire le coût des services publics en diminuant le nombre de fonctionnaires, 49%, un Français sur deux. Alors pour ce qui est de l'âge légal de départ à la retraite, 12%, pas touche aux 62 ans, ça veut dire ça. Augmenter les déficits, 10%. Ça veut dire qu'en fait, au fond, pour un Français sur deux, allez, une personne interrogée sur deux, la bonne idée, c'est de diminuer le nombre de fonctionnaires.
Oui, moi, je suis assez étonnée qu'il y ait c'est pas un consensus, hein, mais oui, qu'il y ait autant de Français. Bon, alors après, comme on a une des sphères publiques les plus étendues du monde, je pense qu'ils vont quand même réussir à supprimer quelques fonctionnaires, mais ça va pas forcément. Enfin, c'est pas forcément la solution idoine. Hein. Ce qu'il faut, c'est quand même avoir une approche. Plus pédagogique que retirer quelques fonctionnaires par-ci par-là. Faut revoir la sphère publique. Qu'est-ce que veulent les Français? Qu'est-ce qui doit rester aux mains de l'État? Et éliminer tout le reste. Cette vision de seulement supprimer quelques milliers ou millions de fonctionnaires par-ci par-là, c'est pas comme ça qu'on devrait procéder. Hein. Faudrait avoir une approche quand même presque plus philosophique.
De ce que l'on doit changer, faire chavirer dans ce pays.
Et c'est assez paradoxal parce qu'on voit que les Français sont assez contre tout ce qui est privatisation, etc.
Pascal Richer, comment est-ce que vous voyez ces annonces, vous, la semaine prochaine? Qu'est-ce qui peut être puissant et concret?
Je pense que ça va partir dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y aura dans plusieurs directions. Il y aura les inégalités, donc là, il y aura effectivement des mesures fiscales, les services publics, la santé, etc. Il y aura la démocratie, donc je pense qu'il mettra une dose de participatif, modification des institutions. Peut-être même, il va s'attaquer au millefeuille des collectivités
tout
locales.
Tout le monde dit ça à chaque fois.
Oui, mais lui, il a ce rêve, comme disait Henri, de révolutionnaire, bon. la transformation du pays, etc. Donc peut-être qu'il va aller aussi dans cette direction. Et puis, il y a le climat, évidemment. Donc là, il va... En plus, il y a la campagne des européennes, donc tout le monde est en train de mettre le coup d'accélérateur sur la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, je pense qu'il annoncera aussi des choses dans cette direction-là. Donc, il y aura à différents niveaux, collectivités locales, nationales, européennes, etc. Ça va partir dans tous les sens. Il y aura peut-être un Grenelle social qui va être annoncé, un référendum peut-être. Enfin, à mon avis, ça va être un truc, un effet blast un petit peu.
Eux, ils disent un effet waouh.
Un effet waouh. Voilà.
Donc, ça veut dire quand même qu'il faudra qu'il y ait une mesure qui fasse waouh, quoi.
Juste un mot sur les fonctionnaires, parce qu'on croit qu'il y a beaucoup de fonctionnaires en France, mais c'est pas vrai. On n'a pas énormément de fonctionnaires. L'administration qui s'occupe des fonctions régaliennes n'est pas tellement nombreuse par rapport aux autres pays. Si on a une dépense publique très importante en France, c'est parce qu'on fait beaucoup de redistribution. Et c'est un choix qu'on a fait collectivement. Mais c'est pas parce qu'on a plus de fonctionnaires qu'en Allemagne ou ailleurs.
Geneviève Göttinger.
Oui, je disais qu'avec la difficulté, ça va être quand même de répondre à des demandes qui sont assez contradictoires. On l'a vu tout à l'heure pour ce qui concernait la fiscalité. La fiscalité. Effectivement, quand vous êtes dans les classes moyennes.
Satisfaire tout le monde.
Quand vous appartenez aux classes moyennes supérieures, vous avez l'impression d'être pressuré d'impôts. Et à ce moment-là, vous souhaitez une baisse de l'impôt sur le revenu. En revanche, quand vous êtes parmi les plus fragiles et les plus faibles, vous vous dites qu'il faut diminuer la CSG parce que ça va nous concerner directement, nous.
Comment parler à l'ensemble des Français et satisfaire tout le monde?
Comment affermir sa base électorale tout en arrivant à reconquérir d'autres électeurs en période de campagne?
Et cela concerne les retraités dont on va parler dans un tout petit instant à 20h40 sur France Info. Mais tout d'abord, la pause, le rappel de l'info, Jules de Kiss.
Julian Assange va s'opposer à la demande d'extradition américaine, celle que la justice britannique va examiner début mai. Les Américains veulent juger sur leur sol le fondateur de Wikileaks, à l'origine de multiples révélations de documents confidentiels. Assange, arrêté ce matin à Londres, dans l'ambassade d'Équateur, où il était réfugié depuis 7 ans. Il devait coûter 3 milliards d'euros et être livré en 2012. Le PR de Flamanville n'est toujours pas en service. Le budget approche les 11 milliards d'euros et tout cela pourrait encore augmenter. Nouveaux retards et nouveaux surcoûts à prévoir à cause de travaux à effectuer. Des problèmes de soudure qu'un groupe d'experts recommande de réparer. C'est maintenant à l'autorité de sûreté nucléaire de dire si EDF doit effectuer les travaux dans la centrale. Après une victoire en première instance et en appel, la Cour de cassation de Lyon donne raison à Paul François contre Monsanto. L'agriculteur français l'emporte une nouvelle fois contre le géant des pesticides. Il a des problèmes de santé depuis une intoxication avec un désherbant. Il salue sur France Info une décision historique, un signal fort envers les responsables politiques. 2019 sera une bonne année pour l'emploi en France, à en croire Pôle emploi. Les projets de recrutement ces prochains mois seraient beaucoup plus nombreux qu'en 2018, en particulier dans la construction. 2 700 000 postes en tout, en plus, une hausse de 15% sur un an d'après cette étude. Des engins motorisés sur les trottoirs, ce n'est pas possible, s'insurge sur France Info le maire du 13e arrondissement de Paris. Il demande qu'on régule l'usage des trottinettes électriques dans la capitale. Il y a pour l'instant un vide juridique, déclaration alors que le géant Uber déploie sa flotte ces jours-ci.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Comment parler à tous les Français, s'interrogeait à l'instant Geneviève Götzinger. Alors les retraités, plusieurs milliers d'entre eux du moins, manifestaient aujourd'hui contre ce que certains d'entre eux appellent le vol de leur pension. Alors sur les banderoles étaient inscrits « Macron, rends-nous le pognon » ou plus sobrement « Les retraités ne sont pas des nantis, revalorisation des pensions ». Voici d'abord deux petits témoignages recueillis à Marseille.
Notre retraite n'est plus reconnue comme un droit, mais elle devient uniquement une aide sociale modulée selon l'arbitraire du gouvernement et donc, à l'heure actuelle, au gré des marchés financiers.
Nous, ce qu'on souhaite, c'est véritablement pour les retraités la suppression de la TVA, de la CSG, pardon, excusez-moi, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité et surtout l'augmentation de nos pensions dont on a besoin aujourd'hui.
Virginie Pradel, le niveau de vie des retraités aujourd'hui, où en est-il ?
Alors, force est de constater que nos retraités ne sont pas gâtés hein, depuis plusieurs années, parce qu'on a quand même eu une succession de coups de rabot fiscaux et sociaux. Donc, pour faire un petit rappel, en 2013, on a eu le gel des pensions de retraite complémentaires. Après, on a eu celles de base, alors qui ont été revalorisées bien en dessous de l'inflation. On a eu aussi des nouvelles contributions, la CASA qui s'ajoute à la CSG et à la CRDS. Et la CSG augmente
usine
elle aussi.
Usine à gaz quand même.
Usine à gaz. Et d'ailleurs, l'INSEE a fait, dans une étude récente, le constat suivant qu'en 2018, les retraités ont perdu 2% de pouvoir d'achat. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que malheureusement notre système de retraite est insoutenable, hein, je suis quand même obligée de le dire. Donc qu'est-ce qui se passe ? Comme aujourd'hui on peut pas directement baisser les pensions de retraite, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente les prélèvements ou on fait un gel des pensions de retraite, le gel que je considère comme un impôt. Et qu'est-ce que veut faire Emmanuel Macron ? Il veut faire la retraite par points, sachant que tous les économistes qui ont étudié la question disent que c'est la meilleure façon de baisser les retraites.
Donc vous prédisez une baisse du montant des retraites.
C'est pas moi, c'est les économistes. Oui. Parce que dès lors qu'en fait, l'idée c'est si vous passez une retraite par point, votre retraite sera conditionnée à la valeur du point. Or la valeur du point dépend de ce qu'il y a dans les caisses de l'État. Donc s'il n'y a plus rien, le point risque de diminuer et les pensions vont diminuer. Et c'est malheureusement, pleurer dans les chaumières, mais malheureusement c'est quand même une perspective à moyen terme qui est assez inéluctable.
Pascal Richer, les quinquas début sexagénaire auront de quoi s'inquiéter aujourd'hui. Et pas seulement, vous me disiez hors micro, hein.
Oui, enfin, on peut s'inquiéter, bien sûr, mais les trentas s'inquiètent plus. Enfin,
les trentenaires, oui.
Les trentenaires. Il y a une étude qui a été faite par la CFDT, une très très grande étude sur des centaines de milliers de personnes, qui montre qu'effectivement, quand vous avez 30 ans, vous inquiétez beaucoup plus du niveau de votre retraite, et certains pensent qu'ils n'en auront plus du tout, d'ailleurs, que quand vous êtes quinquas comme vous et moi.
Henri Vernet, la retraite aujourd'hui recèle une forme d'idée d'insécurité.
Oui, complètement. Mais en plus, d'ailleurs, elle est entretenue à tous les niveaux. Hein. Politiquement, chaque ministre, il va de sa petite phrase, il va de sa déclaration contradictoire. Parce que là, vous nous avez dépeint, madame, une quasi-certitude du système à points. Mais en réalité, finalement, on ne le sait pas encore. Ça, c'est ce que porte Delevoye. Mais vous avez des ministres, notamment ceux qu'on appelle les ministres, qui viennent d'ailleurs de la droite. C'est pas qu'on les appelle, qui viennent de la droite, qui eux sont davantage pour les canons très classiques de la droite, c'est-à-dire allonger de la durée de cotisation et donc recul du départ à la retraite pour financer tout ça. Hein. On sait que certains voudraient aller jusqu'à 64, 65 ans. L'arbitrage n'est pas encore fait. Donc, des déclarations contradictoires, encore aujourd'hui, Agnès Buzyn d'un côté, De Rugy de l'autre. Bref, on n'y comprend plus rien. Une autre incertitude qui vient rajouter à cette espèce de psychose des retraites, qui est en plus, quand on entend parler de seniors, ce sont les EHPAD, où les EHPAD, ça coûte cher. La dépendance, ça coûte cher. Et en plus, russe, on y meurt de, comment dire, d'intoxication alimentaire ou autre. Donc je veux dire que la, le dossier de la dépendance et des seniors en France devient quelque chose de monstrueux. Ça devient anxiogène. Donc non, il faut vraiment sortir de là. Il faut avoir une là, pour le coup, vous parliez de cap. Bah oui, il faut enfin avoir un cap un peu sérieux. Pas parce que ça concerne tout le monde.
Oui, quoi. Et peut-être désangoisser un peu ce
bien
débat.
Bien sûr, bien évidemment. Gottinger.
Bah, effectivement, cette impression qu'il n'y a pas de cap et de cacophonie avec des différences dans la manière de s'exprimer entre les ministres qui viennent de la droite, ceux qui viennent du centre-gauche, ça contribue à cette impression de, en fait, qu'on ne sait pas où on va, et ça, c'est forcément inquiétant. Ensuite, en termes de communication envers les retraités, depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron a été quand même particulièrement maladroit. On a entendu une phrase tout à l'heure d'un retraité ou d'une retraitée, je ne sais plus, qui disait « on n'est pas des nantis ». Oui. Il les a présentés quelque part comme des nantis, et ça, c'était maladroit. Effectivement, ils ont un pouvoir peut-être plus élevé que les actifs, mais en même temps, aujourd'hui, les retraités aident leurs enfants, ils aident leurs petits-enfants, donc ils ont l'impression que cette présentation comme des nantis, c'est quelque chose qui est inacceptable pour eux. Et puis, ça donne aussi l'impression de braquer un peu les générations les unes contre les autres, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très positif, c'est une litote en termes de cohésion nationale.
Donc c'est un sujet dont on attend beaucoup, hein, avec la déclaration du chef de l'État, vraisemblablement la semaine prochaine. Alors cela arrive parfois dans les divorces, être obligé de cohabiter encore quelques mois, le temps de déménager. Vous le savez, les chefs de l'État et de gouvernement européens se sont accordés la nuit dernière à Bruxelles sur un report du Brexit au 31 octobre. Theresa May aura donc eu son délai. Problème, les Britanniques vont voter le 26 mai avant de partir. Pantalonesque, a dit François Bayrou, c'était sur BFM TV ce matin.
C'est quelque chose qui est évidemment complètement choquant, pantalonesque. Oui. Parce que les Britanniques qui sont sur le point de partir ou qui ont annoncé leur intention de partir vont se trouver obligés de participer à une élection pour le Parlement européen, c'est-à-dire de venir à l'intérieur des institutions européennes peser sur les décisions qui vont être prises.
Apparemment, ils ne peseront pas beaucoup.
Pas beaucoup, et je suis très content, d'une certaine manière, même si c'est difficile, que le président de la République française ait été le seul, ou en tout cas celui qui a pris la tête des résistances à cette situation qui est une dérive.
Vous l'avez compris, nous allons refermer ces informés avec le feuilleton du Brexit. Pascal Richer, est-ce qu'au fond tout cela n'est pas un problème absurde?
Oui, c'est absurde. C'est absurde. Le spectacle donné à la Chambre des communes là, depuis 3 mois, c'est un film des Marx Brothers. Et le risque maintenant, c'est que ce film soit importé en Europe. Alors pourquoi? Bon, là, la situation finalement a l'air très compliquée, mais elle est assez simple. Ils ont le choix entre soit rester dans l'Europe, soit prendre le compromis négocié pendant des mois entre Michel Barnier et Theresa May. Ils ne veulent ni l'un ni l'autre. Donc la conséquence devrait être le hard Brexit, le no deal. Bon. Mais personne ne veut de ce hard Brexit, donc on se dit il va peut-être se passer quelque chose dans quelques mois. Mais qu'est-ce qui va se passer d'ici octobre, puisqu'ils ont maintenant jusqu'à octobre? Le risque, c'est qu'ils soient à l'intérieur de la Maison Europe et qu'ils essayent de renégocier le compromis de Theresa May en faisant pression, en bloquant des trucs, en faisant des amendements, les nominations à la BCE, les nominations à la Commission, qui utilisent un pouvoir de nuisance. Et ça, c'est un vrai risque qui risque de...
Ça peut effectivement... exister, ça peut arriver, ça.
Bien sûr que ça peut arriver, bien sûr. Les Anglais sont des gens intelligents, ils savent faire de la politique.
Allez, 20h50, on reste là-dessus, on reste sur le Brexit, c'est promis. Mais tout d'abord, rappel de l'info à 20h50, donc avec vous, Jules de Kiss.
Les États-Unis et l'Europe demandent une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Soudan. L'armée vient de fermer les frontières et l'espace aérien du pays. Elle décrète un couvre-feu, un cessez-le-feu. Mesure prise après la destitution du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans. L'opposition qui manifeste depuis des semaines dénonce un coup d'état militaire et demande donc au peuple de continuer à manifester. La France va s'opposer à l'ouverture de négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. L'Élysée l'annonce ce soir avant un vote lundi à Bruxelles. La présidence rappelle qu'Emmanuel Macron ne veut plus d'accord commercial avec un pays qui n'est pas dans l'accord de Paris sur le climat. Une abjecte capitulation, une atteinte à la démocratie britannique. Les pro-Brexit fulminent en Grande-Bretagne après ce nouveau délai accordé hier à Theresa May par les 27. Elle a jusqu'à fin octobre pour faire valider par son Parlement l'accord négocié avec Bruxelles et donc éviter une sortie sans accord. Les députés français adoptent définitivement la loi PACTE aujourd'hui. Elle comprend le projet de privatisation d'Aéroports de Paris. Près de 250 50 parlementaires de tous bords veulent soumettre ce projet contesté par référendum aux Français. Et puis après la Ligue des Champions, hier, les quarts de finale de la Ligue Europa de football ce soir, dans 10 minutes. À suivre notamment Arsenal contre Naples et un match 100% espagnol entre Villarreal et Valence.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Henri Vernet, il y aura 73 eurodéputés britanniques qui vont s'installer jusqu'au 31 octobre, le 1er novembre, ils plient bagages. Comment ça marche tout ça?
Non, ben ça marchera mal, c'est bien évident, donc on verra comment ça marche. Mais là, il a été dit que toutes les garanties seraient prises pour qu'ils ne pèsent pas justement sur les décisions. Mais on voit pas comment, je veux dire, les traités sont ce qu'ils sont, et donc les Britanniques, s'ils sont là, ils pourront peser. Et quand bien même, moi ce que je trouve inquiétant, on a en effet écouté la déclaration de François Bayrou. Alors, là où il a raison, c'est vrai que Macron s'est retrouvé un peu seul à défendre la thèse d'un Brexit clair et net et rapide, c'est-à-dire avant, disons avant juin, ce qui déjà permettait d'éviter leur participation à des élections dans lesquelles ils n'ont réellement rien à faire. Bon, mais ce qui est terrible, c'est que Macron était seul. C'est qu'on voit bien que aujourd'hui, tout ce qui reste de volonté européenne, on peut reprocher tout ce qu'on voudra à ce président sur le plan intérieur. Mais le fait est quand même qu'en matière européenne, en matière de ce qui peut rester de volonté un petit peu politique d'avancer dans cette construction européenne, bah malheureusement, le pauvre, il est assez seul. Là, on voit que Merkel s'est terminée. Je veux dire qu'elle est en proie. C'est un règne finissant. Mais non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui gagnent aujourd'hui, c'est ceux qui finalement n'ont pas réellement envie que l'Europe avance, qu'elle progresse, qu'elle avance sur le plan, ne serait-ce que de l'intégration économique véritable, fiscale, sociale, etc. C'est en gros, allez, on va vers le grand marché de la grande Suisse et tout le monde s'en accommode. Et donc que les Anglais soient là ou pas, bah, finalement, peu importe. Quoi. Alors, mais c'est terrible, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe.
Je vous propose justement, puisque vous l'évoquez à l'instant, Henri Vernet, d'écouter ce qu'en a dit Emmanuel Macron juste au sortir des négociations.
Je pense que c'est aussi le rôle de la France dans ces moments-là d'essayer de tenir ses principes. Et donc c'est vrai que la position majoritaire était plutôt de donner une extension très longue. Mais à mes yeux, ça n'était pas logique. Et surtout, ça n'était ni bon pour nous, ni bon pour les Britanniques.
Virginie Pradel, Macron voulait faire court, Merkel voulait faire long, et puis les 27, ben, ils ont coupé la poire en deux. C'est toute l'histoire de l'Europe.
Ectoplasmique.
Oui, mais moi, ça m'étonne pas, parce que, enfin, vous savez, l'Europe, c'est un peu comme une omelette. On a mélangé
une omelette.
Des choses qui n'avaient rien à voir, des éléments très hétérogènes, des jaunes, des blancs, et, bah, une fois
on casse
que...
Les œufs, hein. Oui.
Voilà, exactement, vous avez cassé les œufs, vous avez mélangé, et maintenant, c'est très difficile, de les séparer, voire impossible. Donc, moi, je suis persuadée que ça va durer encore quelques mois, et, enfin, je suis absolument pas surprise, de la tournure des événements. Hein.
Alors justement, oui, Geneviève Kotzinger, est-ce que vous pensez pas que le vote britannique, là, le 26 mai, fera office de deuxième référendum?
Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait une majorité de députés anti-Brexit, enfin pro-européens, élus le 23 mai prochain. Et alors là, la question, est-ce que ça rebrasserait ou pas les cartes en Grande-Bretagne? Est-ce que ça pourrait induire, d'une manière ou d'une autre, un second référendum sur le Brexit?
Excellente question.
Il me semble qu'aujourd'hui, toutes les pistes sont possibles. Tout est possible pour le Royaume-Uni.
Pascal Richet, si d'aventure les Britanniques, envoyaient 73 députés majoritairement pro-européens, qu'est-ce qui se passe?
J'y crois assez peu, hein, parce que c'est un scrutin de liste, c'est quand même contrôlé par les partis. En revanche, une vraie élection générale, législative, pour les communes, là, effectivement, ça pourrait permettre de rebattre les cartes, obliger les partis à produire un manifeste, un programme clair sur la question et donner aux électeurs une chance de se reprononcer, puisqu'après une telle élection, il y aurait peut-être un deuxième référendum et peut-être de revenir. Alors vraiment, c'est le petit trou de la souris par lequel les Britanniques pourraient revenir. Moi, je n'y crois pas tellement. Moi, j'ai l'impression qu'en le 31 octobre, ce qui va se passer, c'est qu'ils auront
un nouveau report.
Et peut-être un troisième.
Vous pensez ça? Vous pensez qu'il y aura un nouveau report?
Quelqu'un appelait ça le syndrome Hotel California. Vous savez, you can check it anytime you want, but you will leave. Ouais. Vous devrez rester ici.
C'est l'ancien correspondant qui parle, aux États-Unis.
Donc vous pouvez sortir de l'hôtel quand vous voulez, mais en fait, vous ne sortirez jamais de cet hôtel.
Jamais. C'est aussi la série Le Prisonnier. Hein.
Mais c'est bien. Non, mais c'était bien l'argumentation des Britanniques et de leurs parrains américains. Je dis ça du tout sans aucun complotisme. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais rappelez-vous, quand il avait été question de faire les traités, c'est là qu'avait été introduit ce fameux article 50, parce que donc l'argument, c'était de dire, mais l'Europe, c'est une prison. On peut y entrer, on peut pas en sortir. Et c'est comme ça qu'a été ajouté cet article 50 dans le projet avorté de Constitution européenne, mais repris dans le traité de Lisbonne, parce que c'était vu comme ça. Le monde anglo-saxon voyait l'époque l'Europe comme une prison. Moi, je ne crois pas non plus aux députés, parce que d'abord, il n'y a pas de grand parti qui soit ouvertement anti-Brexit et pro-européen. C'est le cas ni des travaillistes, ni des Tories. Je veux dire, personne n'est pour l'instant sur cette ligne. On est plutôt dans une ligne de confusion. Non, mais en réalité, c'est pas le traité de sortie qu'il rejette. C'est le fameux manifeste, vous savez, la déclaration politique. Oui, oui. En gros, voilà. Est-ce que la Grande-Bretagne ou non va adhérer à une sorte d'union douanière comme l'est aujourd'hui la Norvège et quelques pays.
Virginie Pradel, justement, ça, c'est trop beau dernier mot là-dessus. Justement, est-ce qu'au fond, ça ne résout pas un petit peu le problème économique qu'on pourrait avoir avec la Grande-Bretagne ? Ça nous permettrait d'assouplir un peu la règle à la sortie de Garlas.
Oui, mais...
Je vous sens accablé.
Non, mais c'est parce qu'on voit pas la fin. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait monsieur. Hein. Que ce soit l'omelette ou la prison, on s'en sort pas. Hein. On s'en sort pas. Mais en matière douanière, oui, par contre, il est à craindre. Il y a quand même des conséquences sérieuses pour les Britanniques. Après, pour la France, ça pourrait être positif, mais ça pourrait être négatif aussi. Hein. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui redoutent le Brexit à court terme.
Geneviève Goldsinger, mot de la fin, rapide.
Je vais finir par un mot positif. Moi, en fait, on peut dire à l'inverse que le chaos dans lequel est plongée la Grande-Bretagne depuis qu'elle a décidé de sortir de l'Union européenne montre qu'il ne faut pas en sortir.
Et puis il n'a pas eu lieu.
Et montre qu'il ne faut
pas en sortir.
Ah, on est plongé dans le chaos. Allez, c'est votre conviction. Quand on veut en sortir.
Henri Vernet, qu'y a-t-il à la une du Parisien aujourd'hui en France ?
Écoutez, on s'intéresse à ce qu'on appelle le collège fantôme. Ce sont 2500 élèves en Ile-de-France qui ne sont pas au collège. Donc qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des solutions alternatives dans ces cas-là ? C'est le dossier
à découvrir demain. La une de l'Obs, Pascal Richer.
Alors, c'est consacré aux Français qui arnaquent le fisc avec des témoignages de fraudeurs et on décortique la façon effectivement dont les Français peuvent frauder le fisc à grande échelle.
À votre voisine. Hein. Merci à vous, Geneviève Goldsinger, Virginie Pradel, Henri Vernet, Pascal Richer. Pour ma part, je vous dis bonne soirée. À demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info.